Radio Cité Genève. Genève, c'est vous. Midi El Aboudi.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Genève, c'est vous. Et Genève, c'est vous. Aujourd'hui, Martin Dougou, vous êtes kayakiste olympique. Alors, kayakiste parce que c'est votre métier. Vous êtes kayakiste professionnel olympique parce que vous avez fait les JO il y a quelques semaines à Paris. Et on va parler de tout ça, évidemment, parce que vous êtes genevois. Votre parcours nous intéresse énormément. Et puis, on a abordé à la fin du premier épisode un point très important. C'est l'importance du mental. Du mental dans la performance. C'est ce qui fait toute la différence, finalement, à un certain niveau, quand la technique est au maximum chez tous les concurrents, quand le physique est au maximum chez tous les concurrents, et bien ce qui les départage, c'est le mental.
Ouais, je pense, pour moi, je pense que la performance, 60% de la performance, c'est du mental. Il y a vraiment une grosse part de mental, surtout sur des événements comme les Jeux Olympiques. En tout cas, c'est moi, c'est comme ça que je le ressens. Et ouais, j'ai travaillé là-dessus, je continue à travailler là-dessus, et c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui m'a permis de me sentir mieux dans ma vie de sportif, quoi.
Justement, vous avez évoqué un point là en parlant de toute cette thérapie d'hypnose que vous avez fait. C'est comment est-ce qu'on vit en étant kayakiste? Alors, sans rentrer au centime près dans les détails, c'est vrai que c'est une question intéressante parce qu'on imagine très bien dans certains sports très développés, le football, le ski, le hockey, peu importe, comment les athlètes gagnent leur vie. Mais est-ce qu'un kayakiste peut bien gagner sa vie, notamment quand on est un kayakiste genevois comme ça sur une manche de Coupe du Monde?
Alors sur des coupes du monde on gagne rien du tout. Sur des championnats du monde il y a des primes, mais de l'aide sportive. Et heureusement pour moi j'ai un grand soutien de l'aide sportive, de la ville de Genève et du team Genève aussi, et aussi Real Sport qui est un partenariat un peu plus privé. Mais en tout cas grâce à tout ce système là, ça me permet d'en vivre, de pouvoir me déplacer, de pouvoir mettre le plus d'argent possible dans ma préparation et d'être le meilleur possible.
Justement, vous déplacez, vous êtes sur Genève actuellement pour préparer les championnats de Suisse qui auront lieu ce week-end au moment où on enregistre. Comment est-ce qu'on aborde des championnats nationaux quand on ressort il y a quelques semaines à peine d'un événement mondial comme les Jeux Olympiques?
Je pense que je suis compétiteur dans l'âme, donc je vais les aborder un peu avec les crocs, d'avoir envie de gagner forcément comme j'avais envie de gagner les Jeux. Donc ma préparation est pas optimale, mais je sais que je vais parler à mon mental, je vais parler à ma tête et je vais essayer d'être le plus près possible, quoi.
On va parler de ces Jeux Olympiques justement. On tease un petit peu nos auditeurs depuis quelques minutes maintenant, mais parlons des Jeux Olympiques de Paris. Parlons de tout ça. On va commencer par le début. Comment est-ce que vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques? On va pouvoir évoquer ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez méconnu. On voit les athlètes finalement se disputer les médailles sous nos yeux, mais comment est-ce qu'on arrive aux Jeux Olympiques?
Alors pour moi, c'était assez simple. C'était en 2023. Il y avait des sélections interne avec d'autres kayakistes suisses, donc on était trois à se battre la place. Donc c'est pour nous en tant que kayakiste, c'est un seul bateau par nation. Donc il y avait un seul Suisse kayakiste qui pouvait concourir les Jeux Olympiques, et c'était au championnat d'Europe et au championnat du monde 2023. Et je fais vice-champion d'Europe 2023 et quatrième au championnat du monde en 2023. Et donc sur ces deux courses-là, j'ai marqué assez de points pour pouvoir me sélectionner. Et du coup, c'est moi qui ai été choisi.
Donc, rendez-vous à Paris. On revient au début de l'été. Cérémonie d'ouverture. Comment est-ce que ça se passe, cette cérémonie d'ouverture? Parce que nous, on a vécu ça en tant que téléspectateurs. C'était grandiose. Mais en tant qu'athlète, comment est-ce qu'on vit ça? Racontez-nous un petit peu les coulisses de cette cérémonie d'ouverture.
C'était quelque chose d'assez incroyable, assez mystique, parce qu'il pleuvait à cette cérémonie d'ouverture, mais tout le monde était content d'être là. C'est vraiment un peu ce que j'avais imaginé. C'est une grosse fête du sport avec beaucoup de monde, tout le monde vraiment content d'être là, joyeux. C'est la ville de Paris et la France avaient organisé des sacrés jeux, quoi.
Justement, il y avait du public déjà là sur cette cérémonie d'ouverture, le long de la scène. Alors, c'était du public trié sur le volet, hein, mais il y avait déjà beaucoup de monde, beaucoup plus qu'à Tokyo. Est-ce que c'est là que vous avez réalisé que vous alliez vivre finalement vos premiers vrais Jeux Olympiques, pas en termes de compétition, mais en termes d'atmosphère?
Ouais, exactement. En termes d'atmosphère, c'est vraiment un peu ce que je recherchais. Il y avait du monde. C'était pour moi, c'était vraiment incroyable. Dès la cérémonie d'ouverture, je me suis dit, OK, ça y est, là, c'est lancé. Après la cérémonie d'ouverture, je courais 4 jours après, donc j'avais un peu le temps. Mais je me suis quand même dit, ouais, c'est lancé, il y a du monde, ça va être cool. Et j'ai envie de profiter de tout ça, quoi.
Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui vous placent sur le bateau, qui vous disent, vous devez surtout pas faire ça, ou alors vous devez faire coucou à la caméra de ce côté-là? Comment ça se passe un petit peu le briefing avant de monter sur ce bateau et avant de redescendre la scène?
On était assez libre. On était vraiment libre de faire ce qu'on voulait, enfin dans la mesure du possible. Mais oui, on était assez libre. Nous, on faisait un peu une hola avec tous les Suisses, donc c'était cool parce que tout le monde au bord faisait la même chose. Il pleuvait, donc c'était un peu dur aussi pour eux, pour toutes les personnes qui sont venues nous voir. Donc on essaie de partager un peu cette joie avec eux. Et ouais, c'était vraiment un super moment.
Parlons un petit peu de la vie pendant les Jeux Olympiques. Il y a ce fameux village olympique dont on entend beaucoup de choses, sur lequel on entend beaucoup de choses à chaque Olympiade. Est-ce que vous, en tant que kayakiste suisse, vous étiez dans ce village olympique ou alors vous avez fait le choix de loger à l'extérieur comme beaucoup d'athlètes ont fait lors des derniers JO?
Alors nous, on a fait le choix de pas vivre au village parce que c'était assez loin de notre site de pratique. Donc j'ai été au village... deux journées, il me semble, pour voir un peu, visiter, me faire les ongles, parce que je m'étais fait des petites croix suisses sur les ongles. J'avais trouvé ça assez sympa, j'avais envie de le faire. Et non, on n'a pas été au village, on était plutôt à l'extérieur, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai été performant sur ces Jeux Olympiques, quoi.
On va parler de cette performance, quatrième, du coup, du slalom, à 5/10, si je dis pas de bêtises, du podium. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est frustré de cette médaille en chocolat, comme on dit, de cette quatrième place? Qu'est-ce qui prédomine quand on passe la ligne d'arrivée, quand on a le résultat final entériné et quelques jours après?
Alors, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, ouais, beaucoup de déceptions. ouais, c'était assez dur à vivre parce que les Jeux, c'est tous les 4 ans. C'est pas tous les ans comme un championnat du monde. Si j'avais fait 4e au championnat du monde... j'aurais été un peu frustré, mais je me dis qu'il y aurait l'année prochaine pour une nouvelle tentative. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Il faut saisir sa chance au bon moment. Enfin, pour moi, il n'y a pas de bon moment. Faut la saisir le plus tôt possible. Donc là, ça va un petit peu mieux. J'ai un peu digéré parce que les Jeux sont finis. Il faut passer un peu à autre chose. Et il faut essayer de se préparer pour les prochains, je l'espère, avec une médaille.
Ce qui est très intéressant, on échangeait avant l'émission hors antenne, c'est il y a un paradoxe dans votre tête, c'est que vous êtes déçu de cette quatrième place, ça sent, parce que vous êtes un compétiteur. Quand on est un compétiteur, on vient pas pour faire quatrième, on vient même pas pour faire troisième ou deuxième, généralement on vient pour gagner. Mais en même temps, vous m'avez dit, j'étais à mon niveau, j'ai fait ce que j'ai pu sur le moment avec mes armes. Parlez-nous un petit peu de ce paradoxe des deux Martin Dougou là, qui sont en train de peut-être se battre dans votre tête, celui qui est déçu, celui qui est satisfait. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Eh ben, justement, je pense que le travail d'hypnose que j'ai fait, c'est à ce moment-là qui me sert beaucoup. C'est que je me parle un peu à moi-même, ça peut paraître un peu fou, mais je me parle à moi-même et je me dis, ben ouais... j'ai fait ce que je pouvais sur le moment T, avec le niveau que j'avais à ce moment-là. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Mais aujourd'hui, ben, c'est ce que j'ai pu produire comme navigation. Donc, je fais 4e. J'aurais pu faire 3e parce que ça joue à pas grand-chose. J'aurais pu faire 2e, même 1er. Mais ouais, voilà, c'est le sport, quoi.
Est-ce qu'on se refait le parcours dans les moindres détails quand on rentre justement après chez soi, enfin au logement où vous étiez le soir même, dans la nuit? Est-ce qu'on se refait le parcours en disant, cette porte-là, si je la prends un petit peu mieux, ça change tout? Ou est-ce que justement on essaye d'évacuer, d'analyser très vite et d'évacuer encore plus rapidement pour ne pas rester sur une note amère?
Ben ouais, c'est pareil. Encore une fois, le mental, je pense aussi. J'ai beaucoup analysé, j'ai regardé beaucoup les images en me disant j'aurais pu faire ci, faire ça. Mais en fait, sur le moment, je sens que je fais ce que je peux faire sur le moment. J'ai aucune pensée négative, j'ai aucun moment où je me dis ah, faut que je fasse attention à ça. Je vis vraiment le moment présent. Et donc sur ce moment présent, je fais avec ce que je peux. Donc très vite, je suis passé à autre chose en mode ben ouais, aujourd'hui je pouvais pas faire autrement, quoi.
Avec ce que vous pouviez, c'était également avec le soutien de 12 000 spectateurs, je crois, si je dis pas de bêtises, sur le bassin olympique de kayak cette année. On passe de personnes, à part quelques caméramans et quelques coachs à Tokyo, à 12 000 personnes dans des gradins monstrueux à Paris. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Quand vous arrivez sur le bassin, vous voyez ces tribunes pleines, qu'est-ce que vous vous dites?
Alors, pour moi, je suis arrivé sur ce bassin olympique avec du monde. Donc pour les premières compétitions qui étaient les kayaks dames et canoë hommes. Donc moi j'étais au bord en train de regarder et j'ai trouvé ça juste hallucinant. Enfin vraiment excitant. C'est vraiment quelque chose qui m'animait beaucoup. Dans ma performance, je voulais aussi ouais, qu'il y ait du monde au bord, qu'il y ait du bruit, de l'ambiance, que ça crie. Et vraiment, j'ai vécu ça comme... pour moi, ça m'a un peu galvanisé, quoi.
Il y a une question que je ne vous ai pas posée encore un petit peu sur ce parcours de kayak slalom. C'est, est-ce que vous connaissez le parcours à l'avance? Est-ce que tout au long de la Coupe du Monde, c'est plus ou moins le même parcours à quelques variations près? Ou est-ce qu'à chaque fois, les courants, les portes, tout est différent d'une manche à l'autre?
Alors, les courants sont assez similaires. Ils essaient de produire un peu les mêmes mouvements d'eau, même si ça change un petit peu. Et en fait, les portes, ils les placent la veille. Et nous, on peut que l'analyser au bord. Donc, on s'imagine faire le parcours, mais on n'est jamais sur l'eau en train de le répéter. Donc, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps avant. Moi, j'ai passé 3 semaines avant sur le bassin olympique pour essayer toutes les figures possibles qu'on peut imaginer sur ce bassin. Et après, il y a des traceurs officiels qui tracent. Nous, on regarde au bord. Et après, on doit l'imaginer, se le projeter. Et après, on le fait en manche sèche avec notre bateau.
Il n'y a pas d'entraînement, une fois que le parcours officiel est tracé, il n'y a aucun entraînement sur l'eau?
Non, aucun. C'est vraiment de l'analyse pure et dure dans la tête et de le sentir. Et après, une fois sur l'eau, c'est juste, faut y aller et naviguer.
Il y a un point très intéressant que vous venez d'évoquer, c'est que vous avez passé 3 semaines avant même le début des JO sur place pour finalement essayer d'anticiper, faire des dizaines de parcours différents en espérant qu'il y en ait un qui se rapproche du parcours officiel que vous ne connaissiez pas à l'époque, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça. C'est essayer tous les mouvements d'eau possibles. Donc, il y a énormément de combinaisons. Il y en a peut-être 10 000, je pense. Je ne sais pas, il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, pour arriver le jour de la course et que les traceurs tracent quelque chose, c'est se dire « Ah, ça, j'ai déjà plus ou moins fait » ou « Je sais comment ça va réagir ». Et donc, on est un peu plus serein dans la manière de procéder.
Merci beaucoup, Martin Dougou, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes kayakiste, que vous avez représenté la Suisse lors des derniers Jeux Olympiques de Paris et également lors des précédents à Tokyo. Ça s'est bien mieux passé à Paris qu'au Japon. Et vous êtes également, depuis le week-end dernier, bien champion de Suisse, voilà, de kayak. On en parlait dans l'émission, mais au moment où j'enregistre cette conclusion, on est quelques jours plus tard, quelques jours après la compétition donc. Et on peut le dire à nos auditeurs, vous êtes champion de Suisse de kayak. Et on retrouve donc le champion de Suisse de kayak dès demain dans un nouvel épisode de Genève, c'est vous qui lui sera consacré. Ce sera le dernier, mais en attendant, vous pouvez retrouver celui-ci ainsi que le précédent et tous les autres avec toutes les autres associations ou personnalités genevoises, eh bien en podcast sur notre site radiocité.ch.